Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe.
La radio sauvage.
Il est 6 heures avant minuit, vous écoutez bien Syllabe. Vendredi dernier, Syllabe était à la salle de la Cité pour fêter les 50 ans du Club de la Presse de Bretagne. Pour l'occasion, nous avons imaginé Radio Bamboche, un programme décalé pour rire de nous, les journalistes, le tout en partenariat avec une troupe d'impro-rennaise, la SLAP. Parmi nos invités, Benoît Hamon, président de l'ESS France et directeur général de Singa Global, Fabienne Synthèse, journaliste de France Inter, et le duo du drag grenaise Fricadelf et Marie Babette, que vous avez déjà pu entendre dans 6 heures avant minuit. Ce programme est à réécouter en podcast sur notre site c-lab.fr. C'était le petit instant autopromo et maintenant, place au flash débat.
Problème de connexion aujourd'hui entre les pays scandinaves et le reste de l'Europe. Pas un, mais deux câbles sous-marins de télécommunication ont été retrouvés coupés hier dans la mer Baltique selon France Info. Le premier reliant la Finlande à l'Allemagne et le deuxième la Suède à la Lituanie. Leur sectionnement a entraîné la coupure de toute connexion par fibre optique des câbles selon l'opérateur de ce premier câble, le groupe technologique finlandais Signia. Plusieurs hypothèses viennent à l'esprit comme l'activité humaine, la météo, mais également le sabotage. C'est celle d'ailleurs que les ministres des Affaires étrangères allemands et finlandais soupçonnent le plus. Dans une déclaration commune, les deux gouvernements évoquent la possibilité d'actes malveillants ou de guerre hybride, avec comme premier suspect les Russes, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Cela fait d'ailleurs 1000 jours aujourd'hui que la Russie a envahi l'Ukraine, et depuis quelque temps, la guerre a pris une plus grande ampleur.
Aujourd'hui, les tristes nouvelles concernant la guerre en Ukraine sont arrivées en masse. Tout d'abord, une frappe a touché le nord-est de l'Ukraine, faisant 7 morts, dont un enfant. Et cela quelques heures après une autre frappe russe, lundi, dans la ville d'Odessa, au sud, où au moins 10 personnes sont décédées et 44 autres blessées. Cette attaque survient après un week-end meurtrier. Dimanche, Kiev, la capitale, a subi sa pire attaque aérienne depuis des mois. L'armée russe a lancé plus de 200 drones et missiles. Au moins 7 personnes ont perdu la vie et 19 ont été blessées. Lundi, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a annoncé dans un rapport avoir découvert un gaz lacrymogène interdit dans des échantillons fournis par Kiev. L'Ukraine dénonce la Russie et a aujourd'hui demandé des mesures décisives et des sanctions. L'utilisation d'armes chimiques pendant une guerre étant contraire au droit international humanitaire. Aujourd'hui était organisée une rencontre à Varsovie entre les chefs de la diplomatie des 6 grands pays européens, à savoir l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France. De nombreux sujets devaient être abordés, notamment l'avenir de l'Ukraine, mais aussi les relations entre les différents États après l'élection américaine. Donald Trump ayant largement triomphé sur son adversaire Kamala Harris. Le 45e et bientôt 47e président américain n'est pas très favorable à l'aide apportée à l'Ukraine. Il pourrait se désengager de l'OTAN. Pourtant, durant toute sa campagne, il a répété qu'il est capable de mettre un terme à cette guerre en moins de 24 heures, sans pour autant préciser comment. En parlant des États-Unis, Joe Biden a récemment pris une décision qui pourrait changer le cours de cette guerre. En effet, il tire profit de ses 2 derniers mois de mandat pour aider Kiev. Dimanche, un responsable américain a appris à l'agence France-Presse que l'État autorise désormais l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles américains à longue portée. Cela pourrait permettre à l'Ukraine de toucher des sites logistiques de l'armée russe. Kiev en faisait la demande depuis des mois, mais a pour le moment réagi avec prudence. D'autres pays qui jusque-là craignaient une escalade des affrontements pourraient décider d'emboîter le pas aux États-Unis. Hier, lors du sommet du G20 au Brésil, Emmanuel Macron a déclaré que la décision du président américain était une bonne décision. Le Kremlin a lui aussi immédiatement réagi. Il a aujourd'hui même accusé l'Ukraine d'avoir lancé cette nuit des missiles américains sur un site militaire dans une région frontalière. L'information a très récemment été confirmée par un haut responsable ukrainien. Toujours aujourd'hui, Vladimir Poutine a signé un décret élargissant les possibilités d'avoir recours à l'arme nucléaire. Pour revenir à la disposition américaine, elle survient peu de temps après qu'on ait appris la présence de soldats nord-coréens parmi les troupes russes. Le 7 novembre, Volodymyr Zelensky affirmait qu'environ 11 000 soldats nord-coréens étaient déployés pour soutenir les Russes.
Merci pour ces informations, Aglaé. Pour les étudiants qui m'écoutent et les férus de sciences, le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, s'est exprimé aujourd'hui sur l'ébauche de son projet pour les universités et le monde de la recherche français. Plusieurs idées ont été énoncées, mais surtout un sujet pressant a été abordé, celui des logements d'étudiants. Bénédicte Durand, la présidente du CNUS, précise à Ouest France que pour 100 demandes d'étudiants boursiers, il n'y a que 24 places dans les résidences universitaires. Face à ça, le ministre a annoncé un objectif de 10 000 nouveaux logements par an disponibles aux étudiants, dont 4 000 en Île-de-France. Concernant son plan pour la recherche, Patrick Hetzel souhaite investir dans l'intelligence artificielle et cite vouloir faire de la France une grande puissance dans ce domaine. Après Truffaut, Boulanger ou encore Free fin octobre, une nouvelle cyberattaque contre une grande enseigne française a eu lieu aujourd'hui. Auchan, enfin plutôt les clients des magasins Auchan, se sont fait voler leurs données personnelles. Les noms, prénoms, date de naissance, adresse postale, adresse email de centaines de milliers de clients, selon le groupe Auchan, sont que quelques exemples des données volées. Pour vous rassurer tout de même, l'entreprise a aussi affirmé que les données bancaires et mots de passe n'ont heureusement pas été dérobées. À Saint-Étienne, aujourd'hui, une nouvelle plainte a été déposée contre le chanteur Slimane. Avec le même motif que la première, cette deuxième plainte accuse le chanteur français d'agression sexuelle. Les faits reprochés remontent au 17 décembre dernier, à l'issue d'un concert du chanteur donné au Zénith de Saint-Étienne. L'avocate du plaignant, un technicien de ce même concert, explique que le frère de Slimane est intervenu pour mettre fin à l'agression sexuelle et a demandé aux témoins de la scène d'effacer les captations de leur téléphone. Pour rappel, une enquête est ouverte depuis octobre contre l'interprète. Un coup de couteau dans l'abdomen pour voler ton vélo. C'est apparemment ce qu'il s'est passé hier, peu avant minuit à Rennes. Un jeune cycliste de 25 ans s'est fait poignarder dans la rue Nantaise, non loin du bar Gasoline. Selon Ouest France, vers minuit 20, trois hommes, boulevard de Verdun, se sont fait interpeller par la brigade anticriminalité de Rennes. Amené en urgence au CHU dans la nuit, le pronostic vital du jeune blessé n'est plus engagé aujourd'hui. Vous vous souvenez des Pécroutes ? Mais si, c'est oui. Cette famille bretonne qui a décampé d'Ille-et-Vilaine en septembre dernier, direction Le Monde. Dans un épisode précédent, la famille et ses deux enfants nous racontaient ses péripéties en Indonésie. On a eu de leurs nouvelles. Ils et elles nous racontent leur deuxième étape, le Vietnam.
On change de monnaie, on change de religion. On arrive au Vietnam. On vient de passer un mois du sud au nord, principalement en train et en bus de nuit. Niveau activité, le Vietnam du Nord était plus enrichissant pour toute la famille, avec une montée en puissance jour après jour. On a clairement préféré le Nord, et principalement nos deux jours avec une famille de monde. Cuisine, jeux entre enfants, balade dans les montagnes, repas traditionnels. Particularité dans tout ça, les Hmong parlent le Hmong et non le vietnamien, ce qui a apporté un peu de piment à nos échanges.
Bonjour, je viens du peuple Hmong. Qui veut venir en rando avec moi ?
Le Vietnam, c'est un magnifique pays à visiter lors des saisons avant la culture du riz, afin de profiter au maximum des couleurs. Il a fallu faire des choix niveau budget, et on vous avoue que ça n'a pas été des plus simples. On a tenté l'expérience de sortir du Vietnam par la frontière terrestre, et ce fut une première pour nous et une vraie expérience.
J'ai bien aimé le foot tour dans Hanoï. Le tour en moto dans les montagnes, dormir dans la baie d'Along et la mer car les vagues étaient belles. J'ai bien aimé manger des sandwichs appelés des banh mi et des soupes.
Merci merci aux Pécroutes. Prochaine étape pour la famille, le Laos et la Thaïlande.
Imitation des oiseaux vietnamiens.
Mmh, j'ai reconnu. En tant qu'experte. Qu'est-ce que Simon Debré, Tom Bito et Paul David ont en commun? Cyrien, Agnès, Louise, un petit guess?
Je sais pas.
Une petite devinette?
Ils sont allés au Vietnam?
Non. Ah. C'est bien le titre de vice-champion de France du jeu vidéo agricole Farming Simulator.
Ah, waouh. Les champions.
Et ouais. Ce jeu très populaire selon Cyrian est un jeu de simulation agricole.
Est un jeu toutes les nuits.
Ah oui, oui, oui. J'ai un champ de blé.
Elle arrive au bureau, elle s'endort parce qu'elle a cultivé la nuit.
Toujours.
J'ai fait que cultiver les carottes, les épinards et tout. Bisous.
Ce jeu est un jeu de simulation agricole où le protagoniste doit s'occuper de son exploitation. Et oui, à l'initiative de la FNSEA, une Coupe de France était organisée le mois dernier avec comme challenge organiser une moisson, le pressage et le stockage de bottes de foin afin de marquer le plus de points en 10 minutes. Félicitations à ces trois lycéens bretons d'avoir gagné la médaille d'argent.
Mais est-ce que dans Farming Simulator, il y a des problèmes avec Lactalis, avec le Mercosur et tout?
Je crois pas.
Enfin, je veux dire...
Je crois que c'est un peu idéalisé.
Ah ouais. Ouais. Merde. Bon, okay. Merci Eva pour ce flash. Ce soir, c'est Aglaé qui reçoit dans 6 heures avant minuit.
Quelle heure est-il?
6 heures.
Minuit, pourquoi?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Et oui, Aglaé, qui reçois-tu ce soir?
Aglaé. Aujourd'hui, nous recevons Mélodie Mo, couleurs automnales, ocre et jaune. Bonjour.
Bonjour.
Ce soir, à 20h, peu après notre 6h avant minuit, vous présentez au tambour le concert libre avec un grand L et un grand E aussi. On y reviendra. Pouvez-vous nous présenter ce concert? En quoi ça va consister?
Oui, c'est une performance poétique et slamée, musicale bien sûr, où je suis accompagnée de Gurvan Lelgouache, qui est multi-instrumentiste, qui se présente comme des portraits autour de 10 femmes inspirantes et libres de l'histoire. 10 femmes qu'on ne connaît pas forcément, c'est pas Marie Curie, peut-être le seul personnage qu'on connaît encore un peu aujourd'hui, c'est Calamity Jane. Mais les autres sont des femmes, justement, que j'ai voulu mettre en lumière, car elles sont vraiment inconnues.
Mmh. Et pourquoi est-ce que... Bon, alors, ça peut paraître évident, mais pourquoi est-ce que c'est important encore aujourd'hui, en 2024, de parler de femmes inspirantes?
Ben, tout d'abord, moi, ça vient d'un désir, finalement, profond et inhérent à moi, parce que quand j'étais petite, j'avais pas de modèle féminin inspirant, mais pas du tout, même dans les livres, dans les films. Et moi, je rêvais d'être Indiana Jones, Batman. Et il n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'inspirer de femmes qui partaient à l'aventure, qui étaient dans l'action. Alors aujourd'hui, bien sûr, évidemment, on a accès à beaucoup de métiers, on fait beaucoup de choses, on part beaucoup plus facilement à vélo faire le tour du monde. Mais quand tu es à l'école, en fait, on ne découvre pas ces personnes qui ont été existantes. Qui connaît la pire ennemie d'Hitler ? Par exemple.
C'est vrai, je ne la connais pas.
Eh oui, c'est la première femme qui a fondé la CIA, Virginia Hall. Donc je me suis dit, c'est quand même intéressant pour, bien même pour les petites filles, pour les jeunes filles, et puis pour les femmes, de se dire, maintenant on a des modèles dans les films, tout ça, mais c'est bien aussi de se raccrocher à quelque chose qui a existé. Mais moi... Malgré tout, malgré l'avancée, on sent que, surtout en ce moment, on voit bien un peu partout dans le monde, quand même, il y a quand même des reculs parfois du droit des femmes pour exister et pour avancer dans la vie. Et je me suis dit, ok, allons-y.
Donc le but du concert, c'est aussi, enfin c'est surtout de, du coup, d'inspirer les femmes, les petites filles, c'est ça?
Oui, alors je tiens aussi à dire que c'est pas du tout un spectacle anti-hommes, et que c'est aussi pour les hommes. J'ai des portraits de femmes où les femmes sont accompagnées d'hommes, et donc je l'ai déjà joué plusieurs fois, et les hommes aussi sont inspirés. Moi, après, c'était une thématique que j'avais pris, et puis comme les femmes ont souvent eu plus de noms dans leur parcours que les hommes, leurs aventures sont du coup plus trépidantes, il y a plus de choses à raconter finalement. Et oui, là, vous avez raison, c'est que c'est fait vraiment pour inspirer. C'est vraiment un spectacle qui apporte de la lumière.
Mmh. Et à chaque personnalité, il y a une musique différente, c'est ça, pour bien séparer chaque tableau, entre guillemets.
Exactement, c'est ça. Gurvan, du coup, a bien travaillé sur les différentes ambiances. Effectivement, on a une femme de Colombie, on a une femme du Far West, afro-américaine, une femme d'Hawaï. Et du coup, avec tous ces instruments, alors il a de la basse, de la guitare et aussi pas mal d'électro. On a une femme d'Iran aussi. On mêle des chants africains, des chants iraniens, des choses multiculturelles, mais en même temps qui sont mêlées à la modernité. Comme ça, on passe plus facilement d'un portrait à l'autre. Ça nous emmène tout de suite comme dans un film. C'est vraiment une musique cinématographique.
Mmh. Et c'est aussi... ce concert, il sera slamis, parce que vous êtes vice-championne de slam par équipe en 2023. Du coup, c'est votre spécialité. Qu'est-ce que ça apporte au concert d'utiliser ce mode d'expression ?
À la base, je suis comédienne et quand j'ai découvert le slam, j'ai découvert un mode d'expression très particulier qui permet en fait de synthétiser une pensée, une pièce de théâtre. Un slam, c'est 3 minutes, votre voix, votre corps. Et vous pouvez raconter en fait l'histoire d'une vie en 3 minutes. Le slam, ça apporte aussi quelque chose de très fort, d'empuissancement. Vraiment, parce que le slam, ça veut dire claquer. Vous savez, quand vous regardez une bande dessinée, quand une porte claque, il y a marqué « slam ». Et c'est ça que ça veut dire. Et du coup, comme les mots claquent, comme il y a du rythme, bah, ça apporte tout de suite quelque chose d'empuissancement fort qu'on donne au public.
Mmh. Et il y a aussi un côté très poétique dans vos chants. Comment est-ce que vous écrivez tout ça ? J'imagine que c'est un gros travail d'écriture, du coup, au préalable.
Oui, bah, j'ai toujours écrit de la poésie, finalement. J'ai beaucoup travaillé sur chaque portrait, parce que je voulais vraiment que mes portraits rendent vraiment hommage aux femmes. Je voulais absolument pas raconter de bêtises, donc je me suis beaucoup documentée. Maintenant, on a des livres qui sont super, on a les culottés, on a les filles, il y a des livres vraiment sur les filles, sur les femmes, ou des spécialités sur le surf. J'ai cherché énormément de choses. J'ai regardé des documentaires, déjà voilà, pour respecter l'histoire, pour les femmes existantes, des biographies, des interviews. Et après, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à synthétiser, à trouver le lyrisme, la poésie, un lyrisme poétique, et en même temps, rester toujours concret, rester toujours parce que les spectateurs sont quand même attachés à un mode de musique moderne, et du coup voilà, trouver quelque chose entre modernité et lyrisme.
Oui, et parce que du coup il fallait faire le lien un peu entre histoire et musique actuelle, du coup. Et en parlant d'écriture, cette année, vous êtes aussi la marraine de la 26e édition du concours Faites Court, qui a lieu jusqu'au 10 janvier et qui est ouvert aux étudiants et étudiantes de l'Université Rennes 2 et au personnel aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler du thème et de ce que vous attendez des participants et participantes ?
Le thème, c'est Faites Court.
Ah oui,
c'est ça.
Évidemment.
Je crois. ça c'est le. Et par contre, ils vont travailler autour d'une citation
de Milan Kundera.
Voilà la citation exacte. Je ne m'en rappelle plus.
Il y a toujours quelqu'un qui nous regarde.
Qui nous regarde. Exactement, c'est ça. Je trouve que c'est une citation très inspirante aujourd'hui, parce qu'avec les réseaux sociaux, on est tous déjà en train de crier ça. Regarde-moi, aime-moi, écoute-moi. Et du coup, dans cette société où on a besoin finalement d'être regardé, écouté, validé en permanence, pour moi, je trouvais que c'était important de toucher les points sensibles de ça. Est-ce que finalement, on devient plus narcissique ? Ou au contraire, on manque de considération envers soi-même ? Moi, ce que j'attends finalement, j'attends pas grand-chose. J'ai envie de dire, lancez-vous, écrivez, surtout faites-vous plaisir, soyez libre d'écrire exactement ce que vous voulez, avec le style que vous voulez. un concours, c'est fait justement pour qu'on découvre des personnalités. J'ai envie de dire aux étudiants, étudiantes et aussi au personnel, surtout soyez vous-même et ne soyez pas sage. Et je pense que voilà, quand le jury découvrira les textes, on sera très heureux de découvrir des textes uniques, authentiques et très différents. Je pense que ça va être une belle expérience.
D'autant que pour revenir sur l'écriture, j'avais oublié de le mentionner, mais vous avez, si j'ai bien compris, retranscrit votre spectacle, enfin votre concert libre en recueil ou livre, du coup, qui a le même nom, Libre.
Oui, c'est ça, c'est le livre et le spectacle éponyme. Eh bien oui, on a fait un recueil de poésie slam avec les éditions Porte 7, qui sont une boîte d'édition rennaise, avec Jafraji et Kevlarage, qui sont aussi slameurs, et qui ont ouvert voilà, une boîte d'édition dédiée à la poésie. Et oui, on pourra le retrouver le soir du spectacle.
Mmh. Et en parallèle de tout cela, vous faites beaucoup de choses. Vous proposez également des conférences, dont Libre, l'art de convaincre, combattante, sportive, mais aussi des formations. Libérez votre voix, c'est ça. Quels sont les buts? À qui est-ce que c'est destiné? Pourquoi c'est important de faire ce genre de formation?
Les conférences... C'est pour moi aussi la possibilité d'atteindre des gens qui ne vont pas forcément au spectacle. Du coup, j'interviens dans des cadres particuliers, des entreprises, des associations, souvent seules, parfois sans la musique, où j'adapte en fait les textes à la problématique des gens. Parce que finalement, les portraits de ces femmes sont des portraits de femmes libres. Et la liberté, on en a tous besoin aujourd'hui. On est vraiment dans un métier où on travaille tous énormément. On a des buts, des rêves à atteindre. Et ces personnes-là, ces personnalités, elles peuvent vraiment donner quelque chose. Et les formations, c'est pour moi la possibilité, grâce au slam et la poésie, de donner confiance, un pouvoir aussi d'empuissancement, comme j'en parlais tout à l'heure, et la possibilité aux gens qui prennent la formation de se sentir bien dans leur peau pour prendre la parole avec des techniques poétiques finalement, mais qui vont leur servir dans la vie de tous les jours. Et c'est des cadres généralement très bienveillants où on peut vraiment libérer justement notre voix, notre corps, et ça nous sort aussi du quotidien, la prise de parole dans l'entreprise. Bon, ça va un peu, mais quand on fait quelque chose de plus récréatif comme ça, d'inspirant, après ça, on s'en sert dans la vie de tous les jours.
Et donc c'est pour donner confiance, enfin avoir confiance en soi, dans sa parole, puisque du coup le slam c'est une sorte d'art rhétorique, entre guillemets.
Exactement, exactement, oui. Les présidents, en fait, même s'en servent quand tout le monde se souvient de « Moi, président !»« I have a dream !» Ce sont des anaphores poétiques dont on se sert énormément en slam. Mm-hmm. Et moi, voilà, ça, ces figures rhétoriques, je m'en sers dans mes slams et du coup, je les apporte dans le quotidien des gens. Mm-hmm. Et après, ils libèrent leur écriture et après, même, ils ont confiance en eux.
Mm-hmm. Et donc, pour revenir à l'événement de ce soir, il y a 3 prix proposés différents en fonction des publics. Et est-ce que vous envisagez de refaire ce spectacle à Rennes ou...
Oui, bien sûr. Plus on joue, nous, plus on est heureux. Mmh. Le 2 avril, on joue au Champ Libre dans un horaire qui est 12h30, je crois. Ils ont l'habitude de faire ça. Et oui, évidemment, nous, on espère que les programmateurs viennent ce soir et nous programment encore davantage.
Et bon, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Moi, j'avais une petite demande à rajouter. Mélodie, je ne sais pas si c'est possible, mais vu que vous êtes en face d'un micro, là, vous ne nous ferez pas un petit slam
oui.
Quelque chose, c'est peut-être trop demandé.
Non, avec plaisir. Alors... À toutes ces femmes qui se retiennent, ces lady ultra polies, ces petites filles sages, coiffées, nattées, tressées, stressées, ces mères qui n'osent pas, ces sœurs qui parlent bas, ces femmes qu'on enchaîne restent dans la moyenne, celles qui ont honte de leur sexe cachent tous leurs réflexes, les rêves figés par les convenances, la respiration... En maintenance, cœur au soupirail, tripes en éventail, toi qui en vis, toi qui ne vis, je combats pour te prouver qu'une femme est libre de se montrer. On ne cache pas la vérité.
Waouh, merci beaucoup.
Merci.
Merci. Et puis un gros merde pour le spectacle de ce soir. Du coup.
Je prends.
Oui, le spectacle donc libre, c'est ce soir dès 20h au Tambour.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Fini le Roisson Park, c'est en tout cas le souhait du propriétaire du Stade Rennais, le milliardaire François Pinault, sixième fortune française, détenteur de Gucci, Balenciaga ou encore Yves Saint Laurent, l'homme d'affaires breton veut étendre son influence sur la capitale bretonne. Alors, c'est quoi ce projet nous faisant dire au revoir à notre cher et tendre stade? Tout de suite, la chronique de Cyriane Lesbéton.
Alors, Héloïse, le projet sur le papier, il est alléchant pour beaucoup. L'idée, franchir la rocade et construire 300 mètres plus loin un nouveau méga-stade de 45 000 places au lieu des 29 000 actuelles du Roisson. Le lieu, l'ancien site industriel de l'usine Citroën de la Barre Thomas démoli en 2019. Un projet se voulant ultra moderne, mené sous la baguette de l'architecte de renom Jean Nouvel, qui est accessoirement aussi un très bon pote de François Pinault. Hein, faut le savoir. Et en plus de tout ça, le milliardaire laisse planer l'idée que le site accueillerait un musée d'art contemporain, une salle multisport ou même une salle de concert palliant enfin l'absence de Zénith dans la capitale bretonne.
Un stade dont les coûts seraient estimés à 1,5 milliard d'euros quand même.
Oui, mais pas d'inquiétude, Héloïse, c'est la famille qui régale, c'est la famille Pinault qui offre tout. C'est bon, on est sauvés. Enfin, bon, pas vraiment, j'avoue, bon, d'accord. En fait, déplacement de l'autre côté de la rocade, ça rime avec accessibilité. Bah oui, le stade, il n'existe pas, donc il n'y a pas de story, il n'y a pas de...
Les stories, c'est sur Instagram, les sorties, c'est le stade. 1, 2, 3, à toi, Cyriane.
Donc il n'y a pas de sortie pour y entrer, ça veut dire qu'il faut en créer une, modifier les réglementations sur la route, mettre des passages piétons, des feux, bref, le bordel, quoi. Et ça, par contre, c'est aux contribuables de payer. Et puis en plus, là, vous allez vous dire, mais trop ringard, quoi. Faudrait donc recouler du béton et tout, mais la chronique, elle s'appelle Les Bétons, et là, t'en fais juste la promo. Donc c'est quoi le problème avec ce projet?
Respire un coup.
On se détend.
C'est bon, je pense que nos auditeurs et auditrices se sont calmés. Oui. Bon, ok, je vais vous énoncer les quelques contradictions que présente la construction d'un nouveau stade. Déjà, comme je viens de le dire, si vous avez suivi, se présente le problème de l'accès. La station de métro la plus proche étant à 40 minutes à pied. Ce qui n'est pas très raisonnable, quand on sait que la pollution causée par les transports est la première source d'émissions de CO2 en France. L'argument de Pinault face à ça, la future arrivée estimée horizon 2030 d'une ligne de trabus passant par la route de l'Orient, juxtaposée au site de la Barre Thomas. Par comparaison, le Roisson Park est, lui, accessible en métro, en bus et même en vélo, puisque situé aux abords du chemin de halage de la Vilaine. Mais c'est pas le seul problème, parce qu'évidemment, il y a celui du futur du Roisson Park. Que faire de ce stade centenaire si ce projet venait à se concrétiser? Alors là, bon, Pinault, il a pas trop l'air de s'y être penché, hein. La mairie, en étant propriétaire, ce serait à elle de gérer le dossier si son locataire venait à s'en aller. Se présentent donc plusieurs options, dont une principale, sa démolition, remplacé par des immeubles ou encore des espaces verts. Oui, je sais, c'est pas très écolo, on détruit un bâtiment en parfait état pour reconstruire plus loin. Mais en fait, si, c'est écolo, parce qu'en fait, on va planter des arbres à la place, donc ça passe. Arbres qui vont mettre ensuite des années à pousser sur une terre dont on n'est même pas trop sûr de sa fertilité, puisque artificialisée. Et oui, c'est vraiment un des arguments repris par les défenseurs du projet. Mais la mairie, ayant donc investi beaucoup d'argent dans l'arène, s'oppose à ce projet. Le souhait de Nathalie Appéré, agrandir le stade de 10 000 places, sa capacité arrivant alors à 39 000, 6 000 de moins que le futur projet Pinault. Cependant, les discussions ont l'air d'avoir quelque peu évolué et la maire socialiste serait prête à la négociation, d'après le milliardaire français dans les colonnes de Ouest-France. Le club ayant besoin du véritable sésame, l'autorisation de construire ou pas, délivrée par la ville de Rennes.
Merci Cyriane. Et vous, vous êtes pour ou contre un nouveau stade? Laissez-nous le savoir et laissez-nous un
message.
Avant de justement vous en dire plus sur notre répondeur, je voulais juste vous dire que les 28, 29 et 30 novembre, c'est le festival Culture par Bar, cette 22e édition à Rennes, où ça représente plus de 200 artistes dans 19 bars partout dans la ville. Silab vous propose donc de remporter 2 places par soir et par concert pour les concerts proposés au Melody Maker, à l'Amrock et à Grabuge. Pour les gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe que je vous donne tout de suite. Le mot de passe, c'est Conan. Je le répète, Conan. Conan.
Comment tu l'écris?
Barbare. C-O-N-A-N.
Ok.
Voilà. Pour en savoir plus sur le concours ou pour jouer, rendez-vous sur syllab.fr, rubrique concours du moment. Et donc, comme on disait, un dernier petit message.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Peut-être que près de chez vous, il se passe des choses, ou alors dans votre vie, dans votre immeuble. Peut-être qu'un de nos reportages vous a fait vibrer et vous avez envie de nous le dire. Peut-être que vous adorez nos voix.
Let's have a kiki.
Oula, je ne me prononcerai pas sur le kiki. Pouf, laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Votre message sera diffusé à l'antenne. Merci. Timothée pour la technique. On se retrouve demain.
Merci le goût.
Merci.
Si la love. La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs d'or.
6 heures avant minuit. 18h, 19h. Sur Syllab, la radio sauvage.